Il me plaît dans mon cœur de partager sur la vie. La vie. Alléluia. La vie. Et mon thème ce matin, c'est activer les dimensions supérieures de la vie. Activer les dimensions supérieures de la vie. Activer les dimensions supérieures de la vie. Alléluia. Alors, bien-aimés, lorsque nous parlons de dimension supérieure de la vie, nous parlons de la dimension de la vie en Christ qui vous donne un avantage et une longueur d'avance sur toute chose. Alléluia. Donc, je répète encore, lorsque nous parlons de dimension supérieure de la vie, nous parlons ici de dimension de la, nous parlons ici de la dimension de la vie en Christ qui nous donne un avantage et une longueur d'avance sur toute chose. La dimension supérieure de la vie n'est pas simplement une question de longévité. Non, non, non. Alléluia. Mais c'est d'abord et avant tout une question de vie surnaturelle en Christ. Alléluia. De vie surnaturelle en Christ comme racine, comme fondement de notre existence. Alléluia. Alléluia. Je répète encore, la dimension supérieure de la vie ici n'est pas question de la longévité de la vie. Non, non. Alléluia. Mais plutôt de la vie surnaturelle en Christ comme racine, comme fondement de notre existence. Alléluia. Genèse chapitre 2, le verset 7 que nous allons prendre. Et 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 27 au verset 29. Genèse 2, le verset 7, 1 Corinthiens 1, le verset 27 au verset 29. Alors je lis au nom de Jésus. Si vous y êtes, est-ce qu'on peut se lever pour honorer la lecture de la parole du Seigneur? Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 27 au verset 29. Je lis au nom de Jésus. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Asseyons-nous, bien-aimés. Alors, comme je le disais tout à l'heure, la dimension supérieure de la vie n'est pas liée à la longévité, mais c'est liée à la vie surnaturelle de Christ, que nous avons en Christ, que nous héritons en Christ. Alléluia. Alors, lorsque l'homme, lorsque, alors, dès l'origine, bien-aimés, le souffle que Dieu a libéré pour faire de l'homme une âme vivante, dans Genèse chapitre 2, le verset 7, était le souffle de la dimension supérieure de la vie. Lorsque nous observons la création, Genèse chapitre 2, le verset 7, nous voyons de Genèse chapitre 1, nous voyons Dieu va créer tous les éléments de la vie, de la nature. Alléluia, le ciel, la terre, les luminaires, les herbes, les animaux, les plantes. Tout, il va créer. Au verset 26, il va faire l'homme à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Mais jusque-là, l'homme n'était qu'une enveloppe spirituelle. Alléluia. L'homme n'était qu'une enveloppe spirituelle. En fait, après la Bible a dit qu'il va prendre de la poussière, il va faire l'homme. Verset chapitre 2, le verset 7, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme, forma. Il va lui donner une forme physique, une forme identifiable, une forme repérable sur la surface de la terre. Et la Bible dit qu'il va donc former l'homme de la poussière de la terre. Et lorsque l'homme va avoir une forme, avoir un esprit, il n'aura pas encore la vie. Alléluia. Il n'aura pas encore l'huile qui fait tourner un moteur. Alléluia. La Bible dit qu'il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Il souffle. Alors, ce souffle que Dieu envoie dans les narines de l'homme, c'était l'âme. C'était l'âme. L'âme, donc, est donc cette plateforme qui permet au corps physique d'un homme de pouvoir être, de pouvoir s'articuler et de pouvoir entrer en compréhension de son environnement physique. Alléluia. Sans ton âme, tu ne peux pas manger et avoir du goût. Sans ton âme, tu ne peux pas savoir si tu es bien ou pas bien. Alléluia. L'âme t'informe de ton état d'être. Alléluia. C'est pourquoi on dit ton état d'âme. Amen. C'est pourquoi on dit que Lévitique nous enseigne que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alléluia. Lorsqu'un homme meurt, c'est son âme qui retourne. Ce n'est pas son esprit, c'est son âme qui retourne. Alléluia. L'âme, c'est cette partie qui a reçu l'identité spirituelle de Dieu. Alléluia. Alors, dès l'origine, donc, le souffle que Dieu va libérer pour faire de l'homme une âme vivante était le souffle de la dimension supérieure de la vie. L'Écriture dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint quoi? Un être vivant. Alors, même lorsque l'homme est tombé, bien-aimé, hors de la dimension de la vie supérieure, rappelez-vous au chapitre 3 du livre de la Genèse, l'homme va pécher. Alléluia. L'homme va pécher et va être exclu de son habitat, le premier environnement que Dieu va donner à l'homme pour qu'il puisse expérimenter cette vie supérieure, c'était le jardin d'Éden. Amen. Alors, notez qu'au jardin d'Éden, la responsabilité de l'homme était quoi? Cultiver et garder. Mais ce n'était pas ce travail qui est pour nous aujourd'hui comme un dur labeur. Alléluia. Le travail était un élément d'épanouissement, un élément pour célébrer la gloire de Dieu, pour célébrer la puissance de Dieu, pour célébrer la vie de Dieu. C'est quoi après le péché? Dieu maudit la terre. Et Dieu dit à l'homme, maintenant, tu ne mangeras qu'à la sueur de ton front. Écoutez, il n'y a pas un travail sur la terre où tu ne transpires pas. Même le voleur transpire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Même le voleur transpire. Parce que Dieu a maudit le sol. Et en maudissant le sol, l'homme vient d'où? Du sol. Alors, cette malédiction affecte la partie terrestre de l'homme. Et automatiquement, lui-même, ça affecte l'œuvre de ses mains. Alors, qu'il fasse n'importe quoi, qu'il vole, qu'il escroque, qu'il fasse la corruption, la sueur va sortir. Ça veut dire qu'il y aura de la peine. Ce n'est pas facile de voler. Hein? Alléluia. Ce n'est pas facile de voler. Bien qu'on n'encourage pas le vol, ce n'est pas facile. Alléluia. Il faut déjouer la vigilance. Alléluia. Il faut déjouer. Hier, je regardais à la télé, on a arrêté un gars du côté de Bolova. Il a volé la bouteille de gaz. On a mis ça que sur sa tête avant de le taper. Alléluia. Mais il transpirait. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il transpirait. C'est important pour nous de comprendre ces choses, bien-aimés. Alors, lorsque l'homme, donc, pêche, il sort donc de cette atmosphère qui lui rendait les choses évidentes, qui lui rendait les choses faciles, qui lui rendait les choses simples. Alléluia. Pour entrer dans un environnement où il devait beaucoup faire des efforts pour avoir le fruit de sa subsistance. Et donc, Dieu va donc concevoir un plan de salut, afin de ramener l'homme au point de départ. Dis avec moi, point de départ. Et dans Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible va dire que Dieu va tant aimer le monde qu'il va donc donner qui? Son fils, afin que l'homme qui croit en son fils ne meure, ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Qu'il avait perdu au commencement. Alléluia. Rappelez-vous, vous, que lorsque l'homme pêche, Dieu va ordonner à des chérubins de se de se positionner devant l'arbre de vie. Amen. Et Dieu va dire aux chérubins, protégez l'arbre de vie, parce que s'ils mangent l'arbre de vie, le péché risque d'être éternel. Alléluia. L'homme avait mangé la connaissance du bien et du mal, mais pas l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, Jésus va nous le donner dans Jean 3,16. Il va dire que l'arbre de la vie, le fruit de l'arbre de la vie, c'est qui? C'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. C'est pourquoi il est important de savoir que Jésus était là depuis le commencement. Il était dans le jardin. Lui-même. Mais sous la forme d'un arbre. On reviendra dessus. Alléluia. Alors, Dieu a donné son fils pour l'homme afin que l'homme puisse remonter dans la dimension de la vie supérieure issue de la racine christocentrique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette vie-là ne vient que de Jésus. En dehors de Jésus, tu ne peux pas expérimenter la vie supérieure. La vie supérieure ne s'expérimente qu'en Jésus. Tu ne peux pas expérimenter la vie supérieure chez les marabouts. Tu ne peux pas expérimenter la vie spirituelle, la vie supérieure chez les maîtres spirituels. Non, tu ne peux l'expérimenter qu'en ayant Jésus. Amen. Alors, Jésus n'est pas mort seulement pour nous donner une vie naturelle, mais davantage une vie surnaturelle qui est l'instrument de la dimension de la vie supérieure. Alors, à quoi consiste la vie supérieure? La vie supérieure, bien aimé, c'est encore ce que j'appelle la vie éternelle. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est encore ce que j'appelle la vie éternelle. La vie éternelle. Alors, la vie éternelle consiste à quoi? La vie éternelle ou bien la vie supérieure consiste à vivre une vie surnaturelle pendant que vous existez en tant qu'être naturel. Amen. Ça consiste, bien aimé, à vivre quoi? Une vie surnaturelle alors que vous existez en tant qu'être naturel. Être naturel. J'écoutais un service de culte où le pasteur Benny Hinn prêchait dans ce culte avec le pasteur Chris il y a Kilomé. Et il disait au pasteur Chris que, pasteur Chris, j'ai administré beaucoup de sessions de guérison, mais ta manière d'opérer m'a toujours choqué, m'a toujours étonné. Comment tu peux entrer dans un service de culte? Tu ne dis pas au nom de Jésus. Tu ne dis pas libérer les corps. Tu dis seulement lève-toi, 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 lève-toi. Et ils se lèvent, quelle que soit leur maladie. Et le pasteur Chris dit, tu sais, les sessions de guérison, c'est fait pour la guérison. Quand j'entre dans ce service, je viens avec une disposition différente. La vie qui est en moi rentre dans les corps et ôte leur maladie et leur confère la guérison en retour. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un croit qu'il a la vie supérieure ici? La vie supérieure, c'est la vie surnaturelle. La vie supérieure, c'est la vie miraculeuse. La vie supérieure, c'est la vie qui est au-dessus des complications, des compréhensions humaines. Une vie qui te donne accès à la puissance de Dieu. Une vie qui te donne accès à la gloire de Dieu. Une vie qui te donne accès à l'autorité de Jésus. Mais nous voyons beaucoup de chrétiens aujourd'hui, bien qu'ils confessent la vie supérieure en eux, ils vivent une vie naturelle, même la plus médiocre, même pour le médiocre. Alors, c'est pourquoi les païens disent, mais où est la vie supérieure? Parce qu'en réalité, je vous l'ai dit, bien-aimé, la vie supérieure, c'est qui? C'est Christ en toi. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Alléluia. L'espérance de la gloire. Où est la gloire dans nos vies aujourd'hui? Où est la gloire dans l'église aujourd'hui? Où est la gloire dans nos maisons aujourd'hui? Où est la gloire dans nos travaux? Où est la gloire dans nos lieux de service? Où est la gloire dans nos entreprises? Si nous portons la vie supérieure, nous portons la vie. La Bible dit qu'un jour, Jean et, je crois que c'est Jean et Pierre, descendent de la prière. Ils vont rencontrer un homme à la porte de la belle. Alléluia. Cet homme qui demandait de l'argent pour vivre. Cet homme, à chaque personne qui passait, il demandait de l'argent. La Bible dit que lorsque Pierre et Jean vont s'arrêter à ses côtés, il va s'attendre à ce que cet homme lui donne de l'argent comme vous les autres, ou de la nourriture, quelque chose en tout cas. Et la Bible dit que les apôtres vont simplement lui dire que nous n'avons rien pour toi. Désolé, on n'a pas de nourriture. Désolé, on n'a pas du pain. Désolé, on n'a même pas d'argent pour toi. Mais on a quelque chose qui est supérieur. On a quelque chose qui est supérieur à la nourriture. On a quelque chose qui est supérieur à l'argent. On a quelque chose qui est supérieur aux connexions. On a quelque chose qui est supérieur aux recommandations. On a la vie. La vie. Dis avec moi la vie. La vie. Il dit, ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Et la Bible dit, cet homme va se lever et il va marcher. Pourquoi? La vie supérieure avait contacté la maladie dans son corps. Lorsque la vie supérieure dans Jean chapitre 11 s'est retrouvée devant la tombe de Lazare, il n'a pas tenu compte du nombre de temps que Lazare était dans le tombe. Il n'a pas tenu le nombre, il n'a pas pris en considération le nombre de situations par lesquelles il était passé. Quand la vie spirituelle, la vie supérieure raconte ta situation, elle s'en fout d'où tu viens. Elle s'en fout. Qu'est-ce que tu as? Elle s'en fout des condamnations des hommes. Elle s'en fout de comment les hommes te voient. Elle s'en fout de ce que les gens disent sur toi. Et la Bible dit que Jésus s'est tenu devant la tombe de Lazare. Il a dit, Lazare! Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Il dit, sors! On dit, maître, il est là depuis 4 jours, il sent. Bien-aimé, je ne sais pas quelle odeur les hommes t'ont donné. Je ne sais pas quelle odeur les hommes ont enveloppé ta destinée. Au point où ils référencent ta vie avec. Je suis venu ce matin te donner le rendez-vous dont tu as besoin. Le rendez-vous avec Jésus. Le rendez-vous avec la vie supérieure. Au nom de Jésus, reçois la vie. Cet homme sent déjà. Jésus dit, je m'en fous. Cet homme, premier élément, cet homme sent déjà. Jésus dit, je m'en fous. Deuxième élément, ça fait 4 jours qu'il est là. Je m'en fous. Quand la vie supérieure rencontre un homme, il ne respecte pas le protocole des hommes. Il ne respecte pas le protocole des hommes. Alléluia. Bien-aimé. La vie supérieure. Est une des raisons pour lesquelles Christ, en tant que Dieu, est venu sous une forme humaine pour nous enseigner comment vivre une vie surnaturelle dans le naturel et comment opérer la divinité dans l'humanité. C'est la dimension supérieure de la vie qui s'exprime. Je prophétise sur ta vie. Que tu te lèves dans la réalité des dimensions supérieures de la vie au nom de Jésus. Où toutes les choses concourent à ton bien, au nom de Jésus. Bien-aimé, lorsque la vie supérieure se manifeste en toi, il y a une chose qui est intéressante, c'est que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. En d'autres termes, toutes choses concourent au bien de ceux qui ont la vie supérieure de Dieu en eux. Voyez, lorsque Dieu va vouloir former l'homme, la Bible dit qu'il va utiliser un élément étrange. Il ne va pas utiliser du fer. Il ne va pas utiliser de l'airain, de l'or ou du diamant. Est-ce que vous savez que Dieu a créé certains anges à partir des pierres précieuses? Est-ce que vous savez que Satan est venu au monde avec des pierres précieuses en lui? Est-ce que vous savez qu'il y a certains anges qui ont l'apparence des pierres précieuses? Alléluia! Mais Jésus n'a pas pris, Dieu n'a pas pris les pierres précieuses pour faire l'homme. Il va prendre le dernier, ou bien le dernier des derniers éléments. On appelle ça le résidu de la vie, la poussière. Il va dire, je vais faire l'homme à partir de la poussière. Je suis convaincu que même dans le ciel, les anges disent, mais ça c'est quoi? Nous, on est beau. On est étincelant. On prie. Tu utilises la saleté pour faire l'homme. Et Dieu dit, il va le faire à son image et à sa ressemblance. Même les anges n'ont pas l'image et la ressemblance de Dieu. Pourtant, ils sont beaux. Alléluia. La Bible dit qu'il va prendre la poussière. Et c'est quoi la poussière, bien-aimé? C'est un résidu insignifiant de la terre. Mais Dieu a utilisé quelque chose d'aussi insignifiant que la poussière pour former un être significatif comme l'homme en vertu de la liberté, de la libération, de la dimension supérieure de la vie par son souffle. Dieu va utiliser la poussière pour garder son souffle. Dieu va utiliser la poussière pour garder sa présence. Dieu va utiliser la poussière pour garder sa vie. Sa vie. Cela implique que la poussière est un symbole de signification cachée dans la petitesse. Bien-aimé, est-ce que je peux étonner quelqu'un? Ne soyez pas triste qu'on ne vous considère point. Ne vous sentez pas mal à l'aise lorsqu'on vous rejette. C'est le principe de la poussière. On ne compte pas sur la poussière. Mais ça s'impose dans les bureaux des grands. Ça s'impose dans les salons des rois. Ça s'impose dans les maisons des présidents. Ça s'impose dans les toilettes des princes. Qui ne vit pas dans une maison avec la poussière? Alléluia. Chaque matin, tu dois nettoyer ta maison. Le soir, tu reviens, tu nettoies. Qu'est-ce qui s'est posé dessus? La poussière. La poussière. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 27 à 29. Il dit, mais Dieu a choisi quoi? Les choses folles. Tu es une chose folle. Tu es une chose folle. J'ai dit, tu es une chose folle. Du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles. Du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles. Ville, ça veut dire sale, impure. Alléluia. Du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Devant Dieu. Alléluia. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. L'importance peut être cachée dans la petitesse. L'importance peut être cachée dans la petitesse. Est né de la rencontre avec la vie supérieure. L'important, la valeur de Joseph était cachée en lui, il était en prison. Il était en prison. Ah, moi, je suis un grand, je dois m'asseoir dans, laisse ça. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu es une poussière. Dis à quelqu'un, chaque fois que tu nettoies la poussière chez toi, sur tes dans ton salon, souviens-toi que c'est ta nature. Alléluia! Souviens-toi que c'est ta nature. Et si tu es là où tu es, c'est à cause de la vie que tu as contactée. Si tu es ce que tu es, c'est parce que tu as rencontré la vie supérieure qui est Jésus. La vie supérieure qui est Jésus. Ne méprisez jamais quelqu'un au niveau de sa petitesse. Car la dimension supérieure de la vie peut transformer, bien-aimé, une entité insignifiante en une entité significative. Du point de vue de la révélation, deux catégories de poussière existaient dans Genèse chapitre 2, le verset 7. Vous voyez, il y avait deux deux catégories de poussière. Il y avait la première catégorie qui était la poussière informée. Et la deuxième catégorie qui était la poussière formée. Alléluia. La poussière informée était la poussière brute, la poussière insignifiante. Mais la poussière formée était la poussière recueillie par Dieu pour donner à l'homme l'importance que lui conférait la dimension supérieure de la vie grâce au souffle de Dieu. Tu es la poussière formée. J'ai dit, tu es la poussière formée. Celle que tu vois posée sur tes fauteuils chez toi, dans ton salon, sur tes tables, c'est la poussière informée. Alléluia. C'est cette poussière qui n'a pas rencontré la vie supérieure. Alléluia. La vie supérieure. Amen. Alors, nous comprenons ainsi que la dimension supérieure de la vie est l'utilisation par Dieu des choses insensées de ce monde pour confirmer la sagesse de Dieu. Pour confirmer la sagesse de Dieu. Rappelez-vous, il a dit quoi? Dans 1 Corinthiens que nous venons de lire, chapitre 1, il a dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Alors, l'utilisation des choses folles, l'utilisation des choses viles, l'utilisation des choses insignifiantes, c'est pour confirmer que Dieu est sage. Alléluia. Alors, la poussière semblait absolument insensée et sans intérêt, mais cette poussière abritait le trésor de Dieu. Alors, je voudrais informer quelqu'un ce matin. Ne méprise pas quelqu'un pendant qu'il est faible. C'est une poussière informée. Quand elle va rencontrer la vie supérieure de Dieu, tu auras honte. Alléluia. Tu auras honte. Parce qu'à ce moment, il aura une forme. Il aura la forme d'un homme bien. Elle aura la forme d'une femme bien. Et tu vas dire, wow, si j'avais su, je l'aurais salué. Si j'avais su, j'aurais pris son téléphone à ce moment des complications. Oh, bien-aimé, à l'heure où nous sommes, tu ferais bien de prendre le numéro de celui qui est à côté de toi et de sécuriser le numéro. Et de sécuriser. Alléluia. Parce que demain, tu vas chercher le contact, tu ne verras plus. Pour avoir la personne, ce sera compliqué. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis, voisin, donne-moi ton numéro. Je dois garder ton numéro. C'est sérieux. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, beaucoup de gens méprisent d'autres pendant leur temps de faiblesse, pendant leur temps de rejet, pendant leur temps de difficulté, pendant leur temps d'oppression, pendant leur temps de désert. Si tu apprécies un homme par rapport au temps de désert par lequel il passe, tu n'as pas compris la dimension de la révélation de sa vie. Chaque homme a un temps du désert et un temps sur la terre promise. Et quand le temps de la terre promise va arriver, il n'oubliera pas le temps du désert. Il n'oubliera pas qui lui a donné l'eau dans le désert et qui a refusé de l'eau dans le désert. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons avoir seulement les contacts bien, 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 bien. Non! Une relation se forge dans le désert. Une relation se forge dans le désert. Alors, je vous ai dit récemment une chose. Qu'il y a trois catégories de personnes que tu rencontreras sur ton chemin. Les personnes que tu rencontres pour une raison. Les personnes que tu rencontres pour une saison. Des personnes que tu rencontres pour une leçon. Alors, fais attention à ces trois catégories de personnes que tu vas rencontrer dans ton désert. Alléluia. La Bible dit que Jacob va rencontrer un homme avec qui il va se battre. Cet homme était là pour une leçon. Alléluia. La Bible n'a pas dit qu'il a rencontré un ange. La Bible dit qu'il a rencontré un homme. Il s'est battu avec un homme. Alors, pendant les moments compliqués de ta vie, tu reçois des visites comme ça qui viennent te donner des leçons. Et tu dis, non, j'ai rien à apprendre de vous. Je m'en fous. J'ai ma logique. Le cours que tu vas refuser d'apprendre pendant les temps de paix, tu vas l'apprendre en temps de guerre. Alléluia. Il y a des choses pour lesquelles Dieu veut te parler aujourd'hui tranquillement, calmement. Tu dis, tu n'écoutes pas. Demain, tu vas soupirer comme ça. Même écouter la direction, tu n'auras pas. Parce que tu as méprisé le temps où ça venait simplement à toi. Alors ne regarde pas ton frère en fonction de comment il est devant toi. Regarde celui-là. Et elle a même une belle graisse. Ça veut dire que c'est même une chic fille. Alléluia. Je cherche que les filles qui ont les vraies greffes dans l'église aussi. Je cherche les mèches humaines. On a enlevé le crâne d'une femme, on a posé sur ton crâne. Alléluia. Laissez-moi avancer. C'est comment? Vous voulez me perturber dans mon message? Alléluia. Ouais, c'est que je parle, je sais. Je dis, Nana peut confirmer. C'est eux qui enlèvent. Alléluia. Alléluia. Ne méprisons pas les gens en fonction de comment ils se présentent devant nous aujourd'hui. Quand tu méprises un homme aujourd'hui dans sa faiblesse, tu te fermes à sa force de demain. Tu te fermes à sa force de demain. Alléluia. Parce que personne ne va rester à la même position éternellement. Personne. Personne. Que tu le veuilles ou non, que tu l'acceptes ou pas, les événements et les situations de la vie te feront évoluer. Les événements et les situations de la vie te pousseront vers l'avant. Alléluia. Donc, il est important donc de prendre les gens à côté de toi avec beaucoup de considération. Parce que 1 Corinthiens 1, le verset 27 à 29 dit que quoi? Mais Dieu a choisi. Alors, notez une chose, Dieu a choisi. Dieu a choisi. Le choix de Dieu, c'est quoi? 1. Les choses folles. 2. Les choses faibles. 3. Les choses viles et qu'on méprise. Alléluia. 4. Les choses qui ne sont point. Vous voyez? Alors, parmi toutes ces choses, vous avez vu quelque chose de puissant? Vous avez vu quelque chose de fort? Vous avez vu quelque chose de beau? Vous avez vu quelque chose d'agréable? Non. Alors, comprenez que le choix de Dieu n'est pas là où vous voyez, là où votre regard pose. Parfois, tu vois un homme à l'apparence zéro, mais l'intérieur, tu as vu que l'enveloppe. Amen. Tu as vu que l'enveloppe. Amen. J'ai dit, le choix de Dieu, c'est quoi? 1. Les choses folles. 2. Les choses faibles. 3. Les choses viles. Amen. Les choses viles et qu'on méprise. Alléluia. 4. Les choses qui ne sont point. Les choses qui ne sont point. C'est-à-dire les choses qui n'ont même pas d'existence claire. On ne sait même pas pourquoi. Oh, tu es venu accompagner les gens. On ne sait même pas pourquoi tu es là. Tu es comme un électron libre. On ne sait même pas la raison. Même dans ta famille, tu fais l'embouteillage. Tu gênes tout le monde. Mais c'est le choix là que Dieu prend. Le choix là que Dieu prend. Vous voyez que le choix de Dieu est à l'opposé de nos choix, n'est-ce pas? Nous aimons ce qui est bien, ce qui est correct. Ce qui est bien arrangé, oui, on veut ce qui est bien établi, c'est, je ne sais pas moi, quelque chose qui est flamboyant. Amen. Mais Dieu dit que non, moi, il n'est pas déçu. Et ceci nous rappelle lorsqu'il a fait le choix du deuxième roi d'Israël. Samuel s'est trompé. Samuel, le grand prophète, il s'est trompé. Il a failli choisir, il était la main de Dieu, il aurait choisi le mauvais roi. Il s'est laissé influencer par de belles choses, par la carrure, par la beauté, par la taille, par les muscles, par l'expérience. Et Dieu a dit, laisse ça, va chercher le gars en brousse. Ville, va chercher le gars en brousse. Chose folle, va chercher le gars en brousse. Chose faible, va chercher le gars en brousse. Chose qu'on méprise, va chercher le gars en brousse. Chose qui ne ressemble à rien. Et toi et moi, nous faisons partie de cette catégorie. Toi et moi, c'est pourquoi ta vie est comme ça? Oh Dieu, si tu n'étais pas que de ces nombres-là, Jésus ne t'aurait jamais choisi. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a plu. Le Seigneur a choisi. Pourquoi il n'a pas choisi d'autres personnes meilleures que toi dans ta famille? Toi, il t'a choisi. Le casse-tête chinois de votre famille, c'est toi. Il dit, c'est toi que je prends. Celle qu'on a piétinée, celui qu'on a écrasé. Il dit, oui, donnez-moi la pâte là. Je vais en faire quelque chose de bien. Et lorsqu'il te prend, il souffle sur toi la vie supérieure. Waouh! Il souffle sur toi. Et tu reprends les formes. Tu reprends des forces. Tu reprends des capacités. Tu reprends la foi. Tu reprends courage. Et quand tu sors, personne ne te reconnaît. Mais ce n'était pas l'homme qui était assis ici. N'était-il pas perclu des pieds? Comment il marche? Et même les parents du gars ont dit que non, on ne peut pas porter la responsabilité. Il est là vieux. Posez-lui vous-même là. Lui-même peut répondre pour lui. Amen. Il y a des situations, même tes parents t'abandonnent. On a posé la question à ses parents, c'est votre enfant? Il dit, oui, mais nous, on ne connaît pas comment il a fait pour être là où il est. Nous, on sait qu'il était sans pied. On tourne. On dit, et les parents disent, non, il est même vieux. Il est âgé, donc il a l'âge pour répondre. Il est là mature, lui-même peut répondre. On lui pose la question, il dit, je ne connais pas qui m'a guéri, mais il est passé comme ça. Il m'a seulement dit, lève-toi, porte ton lit et marche. C'est tout ce qu'il m'a dit. Il ne s'est pas présenté. Quand il va voir Jésus de retour, il va dire à Jésus, ton nom est qui? Tu es qui? Parce qu'on m'a posé la question, j'ai seulement dit que, amen. Il y a des situations dans la vie où si nous n'entrons pas en contact avec la vie surnaturelle, la vie supérieure de Dieu, notre vie va rester insignifiante. Alors j'ai envie de dire à quelqu'un ici, lorsque Dieu donne une forme à notre vie, ce n'est pas d'abord une forme physique, c'est une forme spirituelle. C'est une forme spirituelle. La forme physique vient plus tard. La forme physique vient plus tard, vient à la fin de la construction. Hier, j'étais en train de méditer sur un thème et ce thème, ça m'a trop touché au commencement de Dieu. Je prêcherai sur ça. Et dans ce message, l'Esprit de Dieu m'enseignait des choses. L'Esprit de Dieu me dit, au commencement, Dieu. Au commencement, pas ton travail, pas ton mariage, pas tes enfants, pas tes affaires, pas tes finances. Alléluia. Au commencement, Dieu. Et le Seigneur me disait, chaque fois qu'il n'est pas l'alpha, qu'il n'est pas l'alpha de ta vie, il ne pourra jamais être l'oméga de ta situation. Amen. Alors Jésus ne prend pas l'engagement d'un projet qui n'est pas à la tête. Jésus ne prend pas l'engagement d'une situation qui n'a pas commencé. Tant qu'il n'a pas commencé, il ne peut pas finir. Tu vas finir ce que toi tu as commencé. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est quoi? Il est de notre responsabilité. En tant que poussière de nous souvenir que nous ne sommes que des poussières. Ne tombons pas dans le piège de l'orgueil du roi Saül. Quand il était rien, quand il était une poussière. Et le Seigneur va lui rappeler ça par la bouche de Samuel. Quand tu n'étais rien, j'étais pris d'une famille où il n'y avait pas de roi. J'étais fait roi de mon héritage. Et maintenant, tu es bien assis. Tu décides sur ma chose. Amen. Et c'est ça. J'oublie que ce soir, cet après-midi, ce matin, tu n'oublies pas une chose. Et si tu sors d'ici avec une chose, sois avec ce passage de 1 Corinthiens, que tu n'es qu'une chose vile, dont tu n'as pas à te frapper la poitrine. Tu n'es qu'une chose insignifiante. En fait, tu n'es que la poussière. La poussière ne se frappe pas la poitrine. Amen. La poussière ne se frappe pas la poitrine. Tu n'es qu'une chose folle. Je veux aussi prouver que, je veux aussi montrer que non. Nous sommes ce que nous sommes à cause de la vie de Dieu en nous. Tu es ce que tu es à cause de la vie supérieure en toi. C'est cette vie qui te rend capable d'aller à l'avant, d'aller en arrière, d'évoluer à chaque étape de ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, lorsque quelqu'un vous demande, vous regarde comme un être insignifiant, dites-lui, j'ai une importance divine grâce à la vie de Dieu en moi. Alléluia! Je suis ce que je suis à cause de la vie qui est en moi. À cause de la vie qui est en moi. Je prophétise que tu manifesteras une intense signification divine par l'œuvre de la dimension de la vie supérieure qui se manifeste en toi au nom de Jésus. Cette vie, les gens vont le constater. Vous savez, lorsque vous évoluez dans votre marche et que vous laissez la vie de Dieu se déployer pleinement en toi, les gens témoignent. Les gens disent, tu es différent. Pourquoi on dit que tu es différent? Parce qu'on compare cette vie à une ancienne vie. Alléluia! Avant, tu étais brut. À peine on ouvrait, tu avais là engagé. Maintenant, on parle, tu... Alléluia! On dit, waouh! Oh, toi-même, tu te regardes et tu dis, ce n'est pas toi. Toi-même, tu es conscient que ça, ce n'est pas toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des situations quand ça se passe dans ma vie. Hein, je sais que là, là où je suis là, ce n'est pas moi. Parce que normalement, j'aurais dit un truc. Amen. Il faut parfois vous identifier à quel moment l'Esprit de Dieu prend le contrôle. Il y a des moments, des situations arrivent devant moi. On attend que je parle. À un moment là, si vous entrez dans mon esprit, vous allez vous rendre compte que c'est comme si l'Esprit de Dieu a pris un torchon. Il a effacé tout. Je ne me souviens même plus qu'il y a un problème. Il dit, on parle de quoi? Je viens chez maman. Il y a quoi? Il dit, mais c'est la situation. Mais toi, tu es là à comprendre. Hein? Tu n'as pas compris ça. Je dis, non. Pourquoi? Parce qu'au moment-là, mon cerveau est effacé. Et je comprends que l'Esprit de Dieu ne me veut pas dans cette histoire. Ne me veut pas dans cette histoire. Donc, ce n'est plus une préoccupation dans mon esprit. Mais quand l'Esprit de Dieu n'est pas pleinement, cette vie supérieure n'opère pas pleinement en toi, bien-aimé, tu auras des difficultés pour te séparer de la rancune. Tu auras des difficultés pour te séparer de la colère. Tu auras de la difficulté pour te séparer de l'amertume. Alléluia! Ça va prendre de la place. Mais quand la vie supérieure est en toi, ça prend la place, ça évacue ce qui n'est pas de Dieu. Ça évacue. Un jour, le frère M. Bongui partageait ça ici, que sa vie d'avant, c'était une autre vie. Alléluia. Et lui-même disait ce jour, je m'étonne de comment je suis aujourd'hui. Mais je suis sûr qu'au moment où les événements se passent devant lui, lui-même à l'intérieur dit que ce n'est pas toi, Martial. Ah non, ce n'est pas toi, Martial. Alléluia, ça t'est déjà arrivé. Si ça t'est déjà arrivé, lève la main que je vois. Comme tu dis, ce n'est pas toi. C'est comme une voix qui te parle. C'est toi qui te parle à toi. Je te connais. Ce n'est pas toi. Toi. Que non, ça, ce n'est pas moi. Moi, je me connais. Ça, ce n'est pas moi. Qu'est-ce qui se passe même? Alléluia. Au moment-là, tu as subi beaucoup de moqueries. On dit, oh, un faiblard, tu ne peux rien faire. Tu es comme ça. C'est comme si ton cerveau démarre comme le diesel. Oh, hier, ça démarrait, cas de tout. Bam, bam. Avant même qu'on ne finisse, bam, 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 bam. Ma fille, maman Suzanne, disait ici qu'un jour, une des choses que Dieu l'a délivré de ça, c'était la bagarre. Là, il a dit que maman, tu bagarrais que comment? Alléluia. Elle dit qu'elle n'attendait même pas la suite. Pam, 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 pam. Alléluia. Mais elle dit qu'aujourd'hui, à cause de la vie de Dieu en elle, quand ça commence, même, elle décale un peu. Après, écoutez, à un moment, tu as l'impression que tu es devenu très faible. Tu t'en veux même. Tu t'en veux. Que comment tu peux laisser faire? Comment tu es fâché de toi? Parce que normalement, le vrai toi d'avant. Demande à maman Dani Blanche. Le vrai toi d'avant. On engageait. Alléluia. Mais la vie est entrée. Alléluia. La vie est entrée. Et t'a donné de nouveaux objectifs. Ce n'est pas que tu laisses que tu es faible, c'est que tu as d'autres objectifs. À ce moment, l'esprit de Dieu en toi, la vie de Dieu en toi, te fixe de nouveaux objectifs. Laisse ça tomber, ce n'est pas important. Regarde plutôt tel endroit. Regarde plutôt tel incident. Regarde plutôt tel incident. Regarde plutôt tel incident. Et du coup, tu vois, tu dis... Non, 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 ça c'est un animal. Je veille plutôt, je vais atteindre un objectif plus grand. Et tu évacues la colère, tu évacues la rancune, tu évacues l'amertume, tu évacues l'envie, tu évacues tout sentiment négatif. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, chacun de nous doit développer la vie qui est en lui. Alors, la vie, le jour que tu donnes ta vie à Jésus, ce n'est pas pour que cette vie-là reste comme elle reste. Non, 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 non. Elle doit grandir. Elle doit grandir pour accomplir des choses incroyables dans ta vie. Alors, quelques clés pour une vie supérieure. Prenons quelques clés. Première clé pour une vie supérieure. La rencontre avec la puissance de Dieu. Alléluia. La rencontre avec la puissance de Dieu. Bien-aimé, la puissance vous fait entrer dans la dimension supérieure de la vie. La puissance est la matière première qui favorise l'ascension vers l'immensité de la dimension supérieure de la vie. Amen. En d'autres termes, tu as besoin de la puissance de Dieu pour contacter la vie supérieure de Dieu. Tu as besoin de la vie de Dieu. Rencontrer la puissance de Dieu, c'est être lancé, c'est être programmé dans la fréquence de la vie supérieure. C'est être programmé dans la fréquence de la vie supérieure. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 1, le verset 19. Éphésiens 1, 19, il dit, « Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance ?» Alléluia. « Et quel est envers nous qui croyons ?» Bien-aimé, tu crois, est-ce que tu crois ? Est-ce que tu crois en Jésus ? Il dit, « L'infinie grandeur de sa puissance s'est manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Par la vertu de sa force. Bien-aimé, tant que tu n'as pas rencontré la puissance de Dieu, tu ne peux pas expérimenter les dimensions supérieures de la vie. Alléluia. Un jour, nous sommes allés prier quelque part, papa et maman, et la dame, elle était malade. On arrive, dans mon esprit, je prie. Je demande au Seigneur, on va prier comment pour cette personne? Alléluia. On arrive, il nous accueille bien, on rit, on bavarde, on partage. Pendant qu'on partageait, mon esprit était en prière. Après un moment, l'Esprit de Dieu me dit, c'est bon. Priez comme ça. L'Esprit de Dieu m'a dit, pose les pieds, les mains sur ses pieds. Et j'ai dit à papa et maman, pose les mains, je crois sur la tête, sur les pieds. Et j'ai mis les mains sur la tête. Et on a prié pour cette femme ce jour-là. Bien-aimée, les choses qui sont sorties de la délivrance de cette femme étaient incroyables. Étaient incroyables. Alors, il y a des choses que tu ne peux pas, que tu vas entendre comme un rêve jusqu'à ce que tu rencontres la puissance de Dieu. La puissance de Dieu n'est pas parlée en langue. La puissance de Dieu n'est pas avoir les révélations. Amen. La puissance de Dieu, c'est quoi, bien-aimé? C'est le doigt de Dieu dans une situation complexe. Lorsque le doigt de Dieu vient dire stop, et le règne de Dieu prend place. Alléluia. Alléluia. Et le règne de Dieu prend place. Quand la puissance de Dieu tombe, le règne de l'ennemi s'arrête. Et le règne de Dieu prend place à ce moment précis. Alors, tant que tu n'as pas encore expérimenté cette puissance, tu dois encore chercher la face de Dieu. Alléluia. Deuxième, activez l'esprit de sagesse. Activez l'esprit de sagesse. La sagesse vous permet d'accéder à la vie supérieure. Le manque de sagesse engendre une vie inférieure. Alléluia. Engendre une vie inférieure. Sauf que je voudrais t'encourager ce soir, cet après-midi, à rechercher la sagesse. La sagesse. La Bible dit même que c'est le la crainte de l'Éternel, c'est quoi? Le commencement de la sagesse. Alléluia. Alors, toute principauté dans la dimension de la vie supérieure fonctionne grâce à la chose principale qui est appelée quoi? La sagesse. La sagesse est la chose principale. Proverbe chapitre 4, verset 7. Il dit, Proverbe 4, 7, il dit, acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Quand on parle d'acquérir quelque chose, ça veut dire que c'est une chose qui n'est pas évidente. Il faut payer un prix. Alléluia. Il faut payer un prix. Un autre point, découvrir son origine. Découvrir son origine. Vous savez, votre authenticité dans la vie supérieure dépend de la découverte de votre originalité en Dieu. Alléluia. Votre authenticité dans la vie supérieure dépend de la découverte de votre originalité en Dieu. Si tu ne sais pas qui tu es en Christ, tu ne pourras pas expérimenter la vie supérieure de Dieu. Tu as besoin de savoir qui tu es en Christ. Alors, si tu te demandes qui es-tu en Christ, tu vas dire, je suis enfant de Dieu. Ça ne dérange pas Satan. Alléluia. Ça ne dérange pas Satan. Parce que lui, il n'est même pas enfant de Dieu, il est fils de Dieu. Et il t'a même dépassé. Alléluia. Lorsque les fils de Dieu se sont retrouvés au ciel, Satan n'était-il pas du nom? Alors il est venu en tant que qui? Toi, tu es enfant. Amen. Dans Psaume chapitre 139, le verset 14. 139, le verset 14, David dit, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Alléluia. Âme le reconnaît bien. Bien-aimé, David savait qu'il était une créature si merveilleuse. Toi, tu es qui? Tu es un champion des pleurs. Tu es un champion des lamentations. Ton doctorat plein est déjà sorti. Alléluia. Ton doctorat en lamentation est déjà dehors. Quand on cherche les gens qui doivent pleurer, tu es dedans. Vous savez, dans la Bible, il y a un groupe de femmes qu'on appelle les femmes pleureuses. Les femmes pleureuses, c'est dans le livre de Jérémie, je pense bien. Il parle beaucoup des femmes pleureuses. Il ne parlait pas des femmes qui passaient le temps à larmoyer, non. Les femmes pleureuses étaient les intercesseuses. Elles pleuraient dans leur esprit, pas avec leurs yeux aussi. Oh, aujourd'hui, on a les femmes pleureuses qui pleurent. Ce qui pleure, on ne comprend plus. Amen. Quatrième clé. Clé pour une vie supérieure. La domination financière. Ah oui, bien-aimé. Ecclésiaste chapitre 10, le verset 19 dit, l'argent répond à tout. Alléluia. L'argent répond à tout. Lorsque vous mettez ce texte sur un autre texte que Jésus dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, on ne peut pas servir Dieu et maman. Vous voyez, Jésus dit Dieu et maman. Il met et c'est quoi? Et c'est quoi? Conjonction de coordination. Ça met une liaison, une coordination entre les deux entités. Ça veut dire que par cette coordination, il donne la même autorité à l'argent qu'à Dieu. Ce que Dieu fait, l'argent le fait. Même, en fait, c'est pourquoi il y a des gens, c'est pourquoi Jésus a dit, il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume. Pourquoi? Parce que l'argent est devenu d'un Dieu. Et le niveau où il a atteint, tu vas lui dire que quoi? Dieu va te faire du bien, je suis dans bien. Toi, tu n'es pas bien. Toi qui as besoin de moi. Dieu va te donner la maison. Quelle maison? J'ai déjà bâti. Dieu va te donner le voyage. J'ai mon jet. Je suis citoyen de plusieurs pays. Toi, tu n'es même jamais allé dans ton propre village. Alléluia. Donc, à un moment donné, vous voyez donc que l'argent dont nous parlons ici, la domination financière, vous permet d'être une force dans la dimension supérieure de la vie. Lorsque Dieu vous bénit financièrement et que vous dépendez de Dieu pour votre provision financière, à ce moment, vous entrez dans la vie supérieure, vous manifestez la vie supérieure en vous. Amen. Vous marquez cette dimension supérieure. Alors, il y a la réalité de l'argent et il y a la spiritualité de l'argent. Amen. Il y a différentes ces deux choses. La réalité de l'argent et la spiritualité de l'argent. Lorsque ce que nous parlons ici de la spiritualité de l'argent, quand tu sais que tout ce que tu as vient de Dieu, quel que soit le niveau que tu atteignes, et à chaque moment tu reconnais Dieu, là, tu es entré dans cette dimension. Alléluia. C'est la dimension où Abraham était. C'est la dimension où Isaac était. C'est la dimension où... Alléluia. Mais que tu fonctionnes avec la réalité, l'argent. Non, c'est ce que j'ai qui me dit qui est devant moi. Rien, tu n'es pas mon ami. Vous voyez? Un papa m'avait dit que mon fils, les riches marchent avec les riches. Si demain Dieu te donne l'argent, n'aie pas les amis pauvres. Hein? Il dit comment? Il dit que non. Si tu as un ami pauvre, il va tout faire pour que tu deviennes pauvre, il devienne riche à ta place. Alléluia. Donc, vous voyez que la réalité de l'argent là, c'est une réalité de méfiance. Amen. C'est une réalité de méfiance. Joseph ne s'est pas méfié de ses frères parce qu'aucun de ses frères ne pouvait voler ce qui était à lui. Parce que Dieu l'avait béni. C'est Dieu qui l'a béni. Ce n'était pas Pharaon. C'est Dieu qui l'a béni. Dieu a utilisé Pharaon. Alors, quand tu rentres dans la spiritualité de l'argent, Dieu utilise les hommes pour toi. Mais quand tu rentres dans la réalité de l'argent, toi-même, tu deviens ton élément de bénédiction. Ce que j'ai, c'est grâce à moi. Regardez le roi Hérode. Il a dit, tout ceci a été bâti par ma force. Et le même jour, Dieu l'a puni, il est mort. Et bien, un ange est descendu. L'ange lui a dit, aujourd'hui, ton âme te sera demandée. Et l'ange l'a tué. Cinquième élément pour une vie supérieure, la prière et la parole. La prière et la parole des bien-aimés. La prière enflamme la puissance pour la vie supérieure. La parole enflamme la révélation pour la vie supérieure. Alors, ces deux entités marchent ensemble. La prière et la parole. Bien-aimés, tu ne peux pas prier. C'est pourquoi je dis toujours, lorsque vous prenez des temps de jeûne et de prière, lisez beaucoup la parole. Lisez beaucoup la parole. Lisez la parole. Amen. Ne prenez pas les points de prière. Vous priez, vous priez, vous priez, vous priez, sans vous charger de la parole. C'est la parole qui vous donne accès à la révélation. Et c'est la parole qui vous permet d'identifier la révélation qui vient de l'ennemi. Parce que Satan dans le monde spirituel, Satan, il est là aussi. Alléluia. C'est une fréquence aussi qu'on capte. C'est comme quand tu ouvres ta radio, ça capte toutes les radios qui sont dans les stations radio qui sont dans la zone, n'est-ce pas? Ça capte tout le monde. Alors, quand tu montes dans le monde spirituel par la prière, tu te connectes à tous les satellites qui sont là. Et Satan est un satellite majeur. Amen. Alors, il peut apparaître. Il te dit, je suis l'ange Gabriel. Vous vous souvenez, il y a une religion de ce monde-ci où Gabriel a aussi apparu là-bas. Le fondateur a dit que c'est Gabriel qui lui a présenté le manuel de prière et de méditation dans leur religion. Donc, vous voyez que si tu n'as pas la parole, tu ne pourras pas discerner qui vient de Dieu, qui ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit que quoi? Ne donnez pas foi à tout esprit. Éprouvez-les. Éprouvez-les. Ne donnez pas foi. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas que Dieu. S'il n'y avait que Dieu, ça devait être facile. Mais il n'y a pas que Dieu. Même Satan arrive. Regardez, Moïse meurt, Dieu l'enterre. Satan vient réclamer le corps. Alléluia. L'apôtre Jude parle de cette rencontre. L'apôtre Jude dit que l'ange Gabriel, l'ange Michel est venu rechercher le corps de Moïse. Satan aussi arrive. Il dit, tu pars où? Il dit, le type, si je le récupère, moi-même, j'ai besoin de lui. Et Michael dit que Dieu te réprime. Que Dieu te réprimande, Satan. Que Dieu te réprimande. Il ne s'est pas opposé à Satan. Parce que Satan est une autorité spirituelle. Et dans le monde spirituel, on s'identifie par autorité. Qui es-tu? Quel est ton niveau spirituel? Ton niveau spirituel est lié à la quantité de paroles que tu ingurgites. Qu'est-ce que tu manges? Alléluia. Ce fois, le Seigneur m'a dit dans Josué 1, le verset 8, médite que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite, mange, rumine. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais bien aimé, toi, tu jeûnes, tu es champion des jeûnes de 40 jours, de 21 jours. Bientôt, prendra 21 jours. Tu vas finir sans lire même un seul livre. L'autre jour, j'ai encouragé à ce que chacun lise un chapitre chaque jour. Est-ce que vous avez commencé? Qui n'a pas encore commencé? Qui a commencé? Tu es au 40e chapitre? Hein? cinquième. On est au quatrième. Voilà. Donc, normalement, tu dois être au cinquième chapitre du livre de Proverbes. Alléluia. Si tu lis et tu pries, c'est là où la révélation va venir. Alléluia. C'est là où la révélation va venir. Acte chapitre 6, le verset 4. Il dit, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Alléluia. Et au ministère de la parole. Tu as besoin du ministère de la parole. Tu as besoin du ministère de la prière. Tu as besoin du ministère de la parole. Alléluia. Tu as besoin de tous ces deux éléments. Alors, quels sont les ennemis? On va terminer avec ça. Les ennemis de la vie supérieure. Vous savez, toutes ces choses-là ont des adversaires qui s'opposent à cette vie supérieure dans nos vies. La première chose qui s'oppose à la vie supérieure dans nos vies, bien-aimés, c'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité. Très peu d'enfants de Dieu croient que Dieu peut les utiliser au-delà de ce qu'ils voient. Amen. Oui. Nous voici tous au désert. Dieu qui a ouvert les cieux, a ouvert la mer Rouge, a déplacé les gens, a fait tomber des catastrophes sur l'Égypte. Ouvrir l'eau, la mer Rouge, on n'avait jamais vu ça dans toute l'histoire du monde. On traverse, on arrive de l'autre côté, les gars se plaignent que Dieu veut les faire mourir de faim. Attendez, si un homme a pu ouvrir, si un Dieu a pu ouvrir l'eau, a pu vous délivrer d'un type qui vous a gardé 400 années d'esclavage, vous et vos enfants, vos petits-enfants, manger serait un problème? Et c'est ça les enfants de Dieu. Après une délivrance, la prochaine difficulté devient problème. Oh, Dieu m'a abandonné. Oh, le Seigneur m'a abandonné. Oh, le Seigneur m'a abandonné. La plainte chaque jour. Oh, il avait dit que je vais me marier. Oh, il avait dit que, calme-toi. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. L'incrédulité. Hébreux 3, le verset 19. Aussi voyons-nous qu'il ne put y entrer à cause de leur incrédulité. Bien-aimés, vous ne pouvez pas vivre une vie à laquelle vous ne croyez pas. Alléluia. Vous ne pouvez pas vivre une vie à laquelle vous ne croyez pas. Amen. Amen. Votre vie est fonction de votre foi. Il dit, mon juste vivra par... Non, pas par la foi, par sa foi. Par sa foi. Mon juste vivra par sa foi. Bien-aimé, ta vie est fonction de ta foi ou du niveau de ta foi. Jusqu'à quel niveau tu crois que Jésus peut te délivrer de là où tu es? Jusqu'à quel niveau tu crois que Jésus peut t'élever de là où tu es? C'est important. C'est important. Deuxième ennemi de la vie supérieure, la perte de l'identité originelle. La perte de l'identité originelle, bien-aimé, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Il est important pour nous de comprendre que la crise d'identité aujourd'hui, c'est ça qui est une des sources de beaucoup de problèmes. Quand tu n'arrives pas à t'identifier à quelque chose ou à quelqu'un, bien aimé, tu perds ta propre valeur aussi. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des problèmes parce qu'ils ne s'identifient à personne. Et c'est la même chose dans la maison de Dieu. Lorsque nous ne nous identifions pas à quelqu'un ou à une valeur, alléluia, on ne peut pas évoluer. On ne peut pas. La crise d'identité paralyse la possibilité de vivre une vie plus élevée. Lorsque tu n'as pas d'identificatif pour ta marche, tu ne peux pas aller loin. Alors, les personnes auxquelles tu t'identifies sont comme pour toi des éléments qui vont te motiver, des motivateurs. Amen. Des motivateurs. Ah, vraiment, je prends tel comme modèle. Amen. Je prends tel dans ma vie comme modèle dans la foi. Donc, il devient pour moi comme un point de référence qui me permet de m'identifier et de pouvoir avancer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est très important. Lorsque vous ne savez pas qui vous êtes, vous avez manqué le premier pas vers une vie plus élevée. Troisième ennemi de la vie supérieure, la mauvaise association. La mauvaise association. Oui, mes bien-aimés. Si vous vous associez à des cochons, il est normal que vous finirez comme un cochon. Amen. Il est normal que vous finirez comme un cochon. Alors, on ne peut pas naître d'un aigle et vivre avec les poulets. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On ne peut pas naître d'un aigle et vivre au milieu des poulets. Et vous allez voir, il y a beaucoup d'aiglons qui vivent depuis dans les basses-cours des poulets et qui ont fini par croire qu'ils sont des poulets. Mais parce que quand on met les graines, lui aussi, il picore. Mais tout le monde, les autres poulets le regardent, mais il n'est pas comme nous. Ah, c'est son problème. Si picore, on picore ensemble, alors il picore. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. C'est-à-dire, il y a des endroits où se retrouvent, même les païens disent, mais tu n'es pas comme nous. Toi, tu fais quoi là? Alléluia! Toi, tu fais quoi là? Tu dis, ah, laissez-moi, ah, laissez-moi, c'est ma vie. Je vais... Même les païens sont choqués. Même les païens disent, pardon, 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 tu fais quoi ici? Amen. Tu danses. Même les païens disent, oh, oh, vraiment, les soeurs en Christ. Ouh, alléluia. C'est-à-dire que c'est un aiglon, l'enfant d'un aigle, qui a vécu tellement longtemps au milieu des poulets qu'il a cru qu'il était un poulet. Tout ce que le poulet fait, il fait. Le poulet danse, il danse. Le poulet picore les graines, il picore les graines. Oh, est-ce que vous savez que l'aigle est un carnivore? L'aigle ne mange pas les graines. Il mange la viande. Et la viande fraîche. Tu ne peux pas donner à l'aigle une viande qui a dormi, il mange. Il ne mange pas les viandes qui ont dormi. C'est le charognard qui mange les... Donc, quelle est ton identité? Tu fais partie de quelle basse-cour? Tu dis, je suis chrétien, mais tu te mélanges avec les non-chrétiens. Tu te mélanges. C'est ce qu'ils font, tu fais. On met la grève vert, rouge, jaune. Tu mets aussi vert, rouge, jaune. Tu ajoutes même vert, tu ajoutes même le violet au fond. Alléluia. Donc, pour toi, sois toujours de côté. Et Dieu fait exprès pour que tout le monde t'identifie. Alléluia. Tu ne fais jamais, même avec modestie, même avec un petit semblant d'humilité. Non, tu gardes tout. On doit seulement t'identifier. Et Dieu fait ça pour qu'on t'expose. Même les païens disent, ouh, ta paix est gras. Ouh, tu nous as dépassés. Alléluia. Alléluia. Tout le monde coule les tabacs, un peu transparent ici. Tous les trucs. Toi, tu mets aussi vape. Tu mets aussi. Tu es chrétienne. Tu sors. Tu n'as pas d'évangile en bas ici. Jesus. J'ai vu une sœur en crise, j'ai dit, ah, ma sœur, tu dis, tu as payé ton ayant pour coudre ça. Elle dit, papa, c'est le modèle d'aujourd'hui, non? Vous voyez, et entendez aussi. Tu représentes un royaume. Tu as une vie en toi. Alléluia. Non, vous ne verrez jamais le fils du président Paul Biya s'asseoir avec n'importe qui. Ce n'est pas qu'il ne veut pas, mais ça ne correspond pas avec sa nature. Amen. Ou bien c'est parce que tu es né dans les quartiers compliqués que ça a la peau dure. Non. Même si tu sors d'un quartier compliqué, comprends que ta main, c'est ici à l'intérieur que ça doit changer. Dis avec moi, c'est à l'intérieur que ça doit changer. Vous savez, il y a les gens que ça les attire toujours les mauvaises choses. Ils doivent toujours être au mauvais endroit, avec les mauvaises personnes pour se sentir à l'aise. Ah, avec moi, parce que tu... Non. D'autres vont dire que non, c'est l'humilité, il ne veut pas lui prendre les gens de haut. Non. Que tu ne veux ou pas. Il y a des situations où tu ne peux pas t'asseoir. Que je le veuille ou pas. Il y a des amis, ce sont mes bons amis, mais il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas m'asseoir avec eux. Même si on fait comment. Il y a des sujets sur lesquels ils ne peuvent jamais me consulter. Parce qu'ils connaissent déjà mon avis sans même me consulter. Toi, on cause tous les sujets avec toi. Les garçons, les filles, on cause tout. On n'esquive même pas les conversations avec toi parce que tu es dedans. Et tu es même celui ou celle qui explique même. On dit non, allez prendre conseil là-bas, elle connaît. Faut te calmer. Tu as la vie de Dieu en toi. Amen. Mauvaise association. 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Proverbe 13, le verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage. Quatrième ennemi de la vie supérieure, l'absence des prières. L'absence des prières, bien-aimé, expose votre vie à des attaques. Amen. Expose votre vie à des attaques qui vous empêchent d'accéder à la vie supérieure de la vie. Si vous ne priez pas, vous serez une proie. Alléluia. Vous serez une proie. Luc 18, le verset 1. Il dit, Jésus lui a adressé une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier, prier. Même Paul dit que nous devons prier sans cesse. Amen. Nous devons prier sans cesse. Il n'y a que les chrétiens, après 14 jours de jeûne et de prière, ils prennent le repos. Ah, vraiment, les 14 jours, je vais pouvoir me reposer enfin. C'est la délivrance. Je vais pouvoir dormir enfin. Après 21 jours, sans manger le coq, le sanga, la viande, le poulet, je vais tout manger maintenant. Même Satan dit que merci. Est-ce que vous savez qu'à ce moment, ton responsable de restauration, ce sera Satan. Il va te faire un service traiteur copieux. Tous les nourritures que tu aimais, que tu aimes, il va te donner pour que tu ne pries plus. Alléluia. Un jour, je suivais la délivrance d'un pasteur que Dieu avait, il était, pas que je vais dire Dieu avait béni, pas Dieu, c'est-à-dire il était béni. Amen. C'était un homme prospère. Il avait une grande église, beaucoup de chrétiens. Il avait des voitures, il avait un bon paquet. Les chrétiens étaient prospères. Il y avait tellement de grandes choses. Il avait de grands projets. Il est parti à la synagogue à l'époque de feu prophétique Joshua. Et pendant la délivrance, il lui a dit d'aller à la ligne de prière. Et pendant la ligne de prière, il est venu la toucher, bam. C'est la délivrance là qui m'a choqué. Et je me suis assis dessus. J'ai dit, c'est pas vrai. J'ai revu, je suis allé fouiller la vidéo de la délivrance là. J'ai regardé. Ce qui m'a choqué, c'est que quoi? Quand il a prié, il a dit qu'il y a un esprit méchant en toi. Quand l'esprit méchant s'est manifesté, l'esprit méchant, il a dit, toi, ton mission, c'est quoi? Il dit, ma mission, c'est de le nuire. Il ne doit pas prier. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, je lui ai donné tout ce qu'il a besoin pour qu'il ne prie pas. J'ai dit que c'est pas vrai. Il dit, je lui ai donné la voiture, les voitures, je lui ai donné la maison, je lui ai donné un foyer. Même Satan donne le foyer. Je lui ai donné l'argent, je lui ai donné les connexions. Il doit prier pour quoi? Il doit prier pour quoi? Alors quand tu vas voir un tel homme, tu vas dire, waouh, la faveur, homme de Dieu, touche-moi, que ta faveur me contamine. Donc il dit, même prière, même prière, même prière. Laisse ça. Il y a des prières que tu n'as pas t'accorder dessus. tu ne connais pas. Même Satan bénit dans la maison de Dieu. J'ai dit dans la maison de Dieu. Je n'ai pas dit dans la dehors, chez les païens. C'est le jour-là que j'ai dit, c'est pas vrai. J'ai dit, l'esprit méchant dit, je lui ai tout donné pour qu'il ne prie pas. Alors, au moment où ta vie spirituelle va commencer à chuter et que tous les autres défis de la vie seront prioritaires sur ta vie de prière, sache que tu es en train de répondre à l'appel, du diable pour la destruction de ta propre vie. Alléluia. Alléluia. Mais bien-aimé, tu dois prier. Rien ne doit arrêter ta vie de prière. Prier, c'est ta respiration. Alors, si on attaque ta respiration, ça veut dire qu'on veut que tu meurs. Alors, si on ferme ta bouche, on ferme tes narines, tu ne respires plus. Tu vas t'étouffer, n'est-ce pas? C'est foutu. Alors, c'est ça que le diable te donne. Il met la nourriture, ta bouche grossit. On dit amen. Amen. Ça ne sort plus. Parce que tu es à l'aise. Tu es même trop à l'aise. Quand tu manges tous les jours bien, un jour arrête, ne mange pas. Dis pendant une semaine, je ne mange pas. Il y a à manger, mais je ne mange pas. C'est-à-dire, je décide d'aller vers Dieu. Amen. Ça va t'aider. Ça va t'aider. Amen. Un jour, je suis entré au bureau. J'étais arrivé comme ça, je suis entré au bureau. Et je m'apprêtais pour venir à la prédication. Et j'entends comment l'Esprit de Dieu me dit, « As-tu prié ?» Il dit, mais Seigneur, je suis déjà à l'église. Je me suis préparé. Il dit, as-tu prié? Et l'Esprit de Dieu m'a dit, tu prends déjà beaucoup l'habitude de venir ici au bureau. Tu ne pries pas. Tu sors. Tu crois que ça va, tout va aller pour le mieux. Tu ne pries pas. Alléluia. L'Esprit de Dieu m'a repris là-bas au bureau. Il m'a posé une question. As-tu prié? Il dit, Seigneur, pas directement la prière, mais monte le temps, on va prier, on va. Il dit, non. Tu n'as pas de prière. As-tu prié? Ce matin, as-tu prié? Non, je vais à l'église. Ça va de soi. Amen. Donc, le dimanche, on ne prie pas. Non, on va à l'église. Allez, donc, on va tout faire une fois. Package. Non. Est-ce que vous savez que chaque matin, Dieu a besoin d'avoir une relation personnelle? Je pose une question. Maman Chamberlain, quand tu te lèves le matin, est-ce que tu ne dis pas bonjour à papa matin? Si tu ne dis pas bonjour, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Il va te rappeler ça, non? Pas dit, pourquoi tu me... On a un problème. C'est quoi? J'étais causé du tort. Amen. Alors, dans une relation, vous devez savoir que bien que Dieu est invisible, il est visible. Bien que Dieu est invisible, il est présent. Et il a besoin de son bonjour matinal. Quand tu te lèves le matin, boum, c'est quand tu te lèves, oh Dieu, il est écrit dans la détresse, j'invoquerai l'Éternel. Et si tu avais prié au début, tu ne devrais jamais entrer dans la détresse. Parce qu'il aurait ordonné à tes anges qu'ils te portent de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Mais tu n'as pas prié. Est-ce que quelqu'un avec moi? Notre vie de prière est primordiale pour déclencher la vie supérieure. Pour déclencher la vie supérieure. Alléluia. Alléluia. Je prie pour toi. Que le Seigneur active ta vie de prière. Que le Seigneur réactive 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 ta vie de prière. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors n'oublie pas, bien que tu sois une poussière, Dieu a un projet pour toi. Bien que tu sois la poussière, Dieu a mis sa vie en toi. Bien que tu sois la poussière, Dieu a un plan pour ta vie afin que son nom soit glorifié. Alléluia. Alléluia. La poussière ne peut pas se glorifier. C'est celui qui a fait la poussière qui se glorifie. Alléluia. Bien-aimé, travaille ta vie de prière. Active la sagesse. Trie ceux avec qui tu marches. Et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Et tu expérimenteras la vie supérieure de Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse.